France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Hervé Villard, grande figure de la chanson française qui faisait ses débuts voici 50 ans et dont les refrains ont enchanté le public populaire autant que Marguerite Duras. Hervé Villard, auteur de plusieurs livres de souvenirs, reviendra avec nous sur une vie très romanesque et les chansons qui la jalonnent. En fin d'émission, tout, vous saurez tout sur Offenbach avec Jean-Christophe Keck. Mais d'abord, un coup de chapeau à notre prix Nobel envers lequel j'ai une dette personnelle.
Marcher sur les mains, avaler des pommes de pin, Benoît, des abricots et des pois, et des lames de rasoir, étonnez-moi. Étonnez-moi, Benoît, faites la grande roue, le grand méchant loup, Benoît. Faites le grand fou, faites les yeux doux, étonnez-moi. Étonnez-moi, car de vous à moi, cela ne peut pas durer comme ça, car de vous à moi, c'est fou ce qu'on s'ennuie ici. Faites-moi le grand soleil, faites sonner le réveil, étonnez-moi. Étonnez-moi, Benoît, jouez du coucou, accrochez-vous au rideau, Benoît, attrapez-moi au lasso, et jouons au rodéo. Étonnez-moi. Étonnez-moi, car de vous à moi, cela ne peut pas durer comme ça, car de vous à moi, c'est fou ce qu'on s'ennuie ici.
Oui, j'ai vu quelques visages interrogatifs devant moi dans la cabine du studio quand j'ai parlé du lien avec notre nouveau prix Nobel, Patrick Modiano. Et bien, c'est tout simplement que c'est Patrick Modiano, vous ne le savez peut-être pas tous, qui a écrit cette chanson, Étonnez-moi Benoît, enregistrée en 1968 par Françoise Hardy sur une musique Duc de Courson. On avait eu l'occasion déjà d'en parler dans cette émission. C'est l'époque où Patrick Modiano écrivait des chansons. J'ajoute d'ailleurs, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec lui, qu'il connaît aussi très très bien les chansons plus anciennes de l'entre-deux-guerres, de la guerre. Il pourrait vous citer les noms de tous les romans noirs écrits par Georgius et quelques autres. On y reviendra peut-être un de ces jours. Mais je me suis dit qu'on allait en tout cas continuer ce début d'émission avec les chansons d'écrivains qui ont marqué la deuxième moitié du XXe siècle. Il n'y a pas seulement Patrick Modiano. Il y a aussi, par exemple, cet auteur dont je vous dirai le nom encore. Allez, après la chanson.
Aimer sans l'avoir jamais pu, je m'en vais oublier cet été, vous et l'été à jamais disparu, leur mémoire va bientôt s'effacer,
tes mots du soleil et tes mots de la nuit reviennent assourdis dans le temps qui les fuit. Toujours, toujours, je n'aime que toi. Prends-moi, prends-moi, prends-moi dans tes bras. Je n'aime que toi, ne me quitte pas. Reviennent assourdis dans le temps qui les fuit. Toujours, toujours, je n'aime que toi. Prends-moi, prends-moi, prends-moi dans tes bras. Je n'aime que toi, ne me quitte pas. Je suis seule et déçue. Vous m'aimiez et l'été me brûlait. Et dans l'allée, tout l'hiver revenu me fait trop ces brûlures regrettées. Tes mots du soleil et tes mots de la nuit reviennent assourdis dans le temps qui les fuit. Toujours, toujours, je n'aime que toi. Prends-moi, prends-moi, prends-moi dans tes bras. Je n'aime que toi. Ne me quitte pas.
Combien d'entre vous ont gagné au quiz ? Il s'agissait d'une chanson de Françoise Sagan, qui en a écrit beaucoup dans les années 50, tout de suite après ses premiers succès littéraires. Ça, c'est la première chanson enregistrée de Sagan, chanson sur une musique de Michel Magne, avec qui elle a d'ailleurs fait la plupart de ses chansons, et enregistrée par Renée Caron, qui était la femme de Fernand Reynaud. Oui, c'était un peu inattendu, mais Renée Caron avait consacré tout un album donc, aux chansons de Michel Magne, dont cette première chanson sur les paroles de Françoise Sagan. Elle en a fait quelques autres, dont certaines ont connu un certain succès, comme La Valse, chantée par Mouloudji, Eddie Constantine, Juliette Gréco et certains autres. Il faut dire aussi que Françoise Sagan, qui était très copine donc, avec Michel Magne, a aussi entrepris avec lui la composition d'un ballet. Un ballet qui a été enregistré par un vrai orchestre, sous la direction donc, de Michel Magne. Ça s'appelait Les Rendez-vous manqués, ballet en trois actes, au cours duquel figurait une surprise partie chez Françoise Sagan. Le rendez-vous manqué ballet en trois actes de Françoise Sagan, et oui, sur donc une musique de Michel Magne, qui dirigeait également cet enregistrement en 1958. Et puis, je ne saurais vous proposer ce programme du samedi matin sans au moins un petit tour à Vienne aujourd'hui. J'ai choisi un des chefs-d'œuvre de l'opérette viennoise, L'étudiant mendiant de Karl Mielhöcker, avec cet air merveilleux, cet air chanté par Ollendorff à la fin du premier acte.
Ich knüpfte manche zarte Bande, studierte die Pariser Die schönsten Frauen von Sachsenlande, in Deutschland, Ungarn wie in Wien. Ich kenne Frauenreiz im Süden, Neapel, Rom, Florenz, Madrid. Dran auch bis zu den Pyramiden, nach Afrika zum Teil auch mit. Ach, an des Ganges Strand gesessen, Tausche dort so manchen Gruß. Ich liebete wie den Scherkessen, wie schöne Frau des Kaukasus. Noch schöner schien mir die Kreolin, doch all die Schönheit schnell erbleicht. Wenn man dagegen hält die Polin, der Polin Reiz bleibt unerreicht. Wenn man dagegen hält die Polin, der Polin-Reiz ist unerreicht. Die Polin hat von allen Reizen die exquisitesten vereint, womit die Einzeln geizen, bei ihr als ein Bouquet erscheint. Die Nase hat sie griechisch-römisch, Glutaugen von der Spanierin. Der Rückenmund ist slawisch-böhmisch und lieblich-wienerisch das Kinn. Von der Pariserin das Füßchen und von der Britin die Figur, von allem Reizenden ein bisschen, doch immer grad das Beste nur. Sie borgt sogar von der Mongolin etwas Pikanterie vielleicht. Und gerade dadurch wird die Polin von keinem anderen Weib erreicht. Und gerade dadurch wird die Polin von keinem anderen Weib erreicht.
Un extrait de L'étudiant pauvre, ce chef-d'œuvre, on peut dire, de Karl Mielhöcker, traduit en France aussi par L'étudiant mendiant. Là, c'était donc Hermann Pré avec cet orchestre, sous la direction de Franz Allers. Mais il est temps maintenant de retrouver notre toute nouvelle rubrique.
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô la disco ?
Allô la disco ?
Allô la disco ?
Et oui, vous le savez, depuis la semaine dernière, eh bien dans chaque émission, je vous propose une vraie rareté sortie des fonds de notre discothèque de Radio France qui comporte d'incroyables trésors. Alors ça peut être des disques relativement modernes. La dernière fois, je vous ai proposé par exemple les premiers disques de Claude Carrère comme chanteur, ce qui n'est pas tellement connu. Aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin avec le concours d'Anne Voisin de notre discothèque de Radio France pour aller vers les trésors de l'opéra comique et de l'opérette. Elle a retrouvé pour vous ce disque Odéon enregistré par Victor Pujol de l'opéra comique avec un air rarement enregistré, il faut bien le dire, extrait du Jour et la Nuit, une très jolie opérette de Charles Lecoq. On va écouter cet air de Miguel sous le regard de deux grands yeux.
Sous le regard de deux grands yeux, être ému jusqu'au fond de l'âme. Par un charme mystérieux, peut-être attiré vers une femme.
pense laisser charmer, ne rien aimer que ce qu'elle aime. Et sentir son cœur se fermer à ce qui n'est pas elle-même. Si cela, ce qu'on appelle aimer, eh bien oui, j'aime, j'aime. Si cela, ce qu'on appelle cœur, pensez toujours, pensez sans cesse. Ne pas rêver d'autre bonheur, ne pas concevoir d'autre ivresse. Sur l'heure tout abandonné pour un mot de celle qu'on aime. Et s'il lui plaît de l'ordonner, lui donner sa vie, elle-même.
L'orchestre de l'Opéra Comique dirigé par Gustave Cloez, avec donc ici Victor Pujol, ténor de l'Opéra Comique, né en 1894, mort en 1987, très âgé. Il a été une grande figure de cette maison où il a pourtant d'ailleurs fini simplement comme régisseur. C'était comme ça à l'époque dans la troupe de l'Opéra Comique. Quand on ne chantait plus, eh bien on rejoignait la partie plus technique. En tout cas, voilà un très beau disque Odéon. Sur l'autre face, c'est un air de Xavier Leroux. Et c'était donc le nouveau morceau de notre rubrique Allô la disco, c'est-à-dire que je vais prolonger un petit peu artificiellement avec ma discothèque personnelle. Là, il s'agit d'une collection qui s'appelait Divertissement, des suites à danser commandées à des compositeurs comme Jean Vienner, Marcel Delannoy, Jacques Castérède ou encore Maurice Thirier qui a écrit une de ces suites à danser. On va écouter la valse intitulée Marie-Laure par un orchestre placé sous la direction de Maurice Hewitt. Thank you. Marie-Laure, une valse de Maurice Thirier, par ailleurs grand compositeur de musique de film, interprétée ici sous la direction de Maurice Hewitt. Voilà, mais j'ai l'impression que nous sommes arrivés sur un rivage italien. Je ne sais pas s'il s'agit de Capri, de Venise ou d'une autre terre méditerranéenne parmi celles que mon invité a chantées dans beaucoup de refrains très populaires. Mais mon invité, c'est aussi un chanteur à texte, un chanteur poétique et puis un auteur de très beaux souvenirs. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hervé Villard.
Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins, notre chez-soi, sans oublier les copains des perrons à jamais dispersés aux 4 vents. On n'était pas des poètes, ni curés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman nous servait. Mais après, la vie elle t'a bouffé comme elle bouffe tout le monde, aujourd'hui ou plus tard. Et moi j'ai suivi depuis le temps qu'on rêvait de quitter les vieux meubles, depuis le temps qu'on rêvait de se retrouver enfin seul. T'as oublié Chopin, moi j'ai fait de mon mieux. Aujourd'hui tu bois du vin, ça fait plus sérieux. Le père prend un coup de vieux et tout ça fait des vieux. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins, notre chez-soi, sans oublier les copains des perrons, aujourd'hui dispersés aux 4 vents. On n'était pas des poètes, ni curés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman nous servait. Mais après ce fut la fête, la plus belle des fêtes, la fête des amants ne dura qu'un printemps. Puis l'automne revint, cet automne de la vie. Adieu bel Arlequin, tu vois qu'on t'a menti. Écrouler les châteaux, adieu nos clairs de lune. Après tout faut ce qu'il faut, faut s'en tailler une. Une vie sans argument, une vie de bon vivant.
Bonjour Hervé Villard.
Bonjour.
Quelle jolie chanson, hein, ce magnifique. Frédéric de Claude Léveillé, une chanson de 1962.
Un chanteur québécois, auteur-compositeur,
oui.
Qui avait écrit cette chanson pour Piaf.
Pour Piaf.
Et puis elle a disparu avant.
Elle a disparu avant de l'enregistrer.
Oui, oui.
Et vous l'avez enregistrée longtemps après, puisque c'est extrait d'un de vos albums de 2004. Alors oui. J'aurais pu commencer par un grand tube populaire, mais il y a un peu deux Hervé Villard. Et je sais que cette chanson-là, est, par exemple, elle vous tient particulièrement à cœur.
Oui, mais c'est un album que j'aime beaucoup, celui-là. D'ailleurs, c'est le dernier que j'ai fait.
Mais ça a été presque un petit tournant dans votre carrière, on peut dire, en 2004.
Vous savez,
cet album de chansons de Ionesco, Duras, Prévert, Brecht, vous avez toujours aimé, mais tout d'un coup, ça s'est peut-être mieux su, mieux compris.
Mais lorsque j'étais un jeune disquaire à Paris,
oui.
Je rencontrais naturellement tous ces gens-là, hein, Ionesco, enfin, et les autres, Maria Cazares qui venait m'acheter des disques de Gribouille. Donc si vous voulez, je me disais, je rêvais naturellement de chanter, je me disais, si un jour je chante, quand je serai vieux, je chanterai cela.
Ah oui, c'est-à-dire c'était déjà prévu.
J'allais voir Gréco chanter Olga de Brecht, et je me disais, mais c'est magnifique. J'entendais des textes comme ça. Alors évidemment, nous avions, nous, des gueules de minés, n'est-ce pas? Et donc, on ne nous engageait pas du tout pour là. Donc, on a essayé de me faire chanter des chansons américaines traduites en français, et je n'ai pas voulu. Je me disais, je suis capable d'écrire mes chansons, donc j'écris Caprice est fini. Bien sûr, au moment où j'ai écrit Caprice est fini, inutile de vous dire que je me prenais pour Jacques Brel.
Ouais, d'accord. Vous avez écrit paroles et musique, faut préciser, mais on va y revenir. Mais n'empêche que effectivement, vous aviez déjà cette idée dans la tête, mais finalement, tous les succès populaires qu'on suivit dans les années 60-70, vous ne les rejetez pas aujourd'hui.
Absolument pas. Hein, absolument pas. Vous rendez compte la vie magnifique que j'ai eue.
La vie que vous avez eue, et puis surtout et puis quelques chansons que tout le monde a dans la tête, au fond.
Quelques chansons qui m'ont permis d'aller autour du monde.
Qui vous ont permis d'aller
jusqu'en Australie, au Mexique, au Chili, enfin dans beaucoup de pays d'Amérique latine.
On a dit, alors c'est amusant, je regardais dans un dictionnaire, vous n'allez peut-être pas être du tout content de cette phrase, hein, dictionnaire de la chanson, dans l'article Hervé Villard, justement, à propos de l'album Cri du cœur, vous interprétez Alabama Song, Aragon, etc. Ouais. Et le spectacle qu'il monte ensuite au théâtre de 10h à Paris lui vaut d'être soudain coopté par une intelligentsia qu'il avait jusque-là copieusement méprisée. C'est peut-être un peu exagéré, mais ça...
C'est courant de dire tout ça. Ouais. Ça n'est pas vrai. Il y en a qui ont dit rédemption, par exemple.
Ah oui.
Comme s'il y avait quelque chose. Hein, vous voyez, non, moi je pense pas. C'est que les étiquettes, je veux pas vous refaire le coup, les étiquettes dans ce pays,
ah oui,
c'est comme ça.
En France, elles sont très marquées. Hein, ça, c'est
imaginez Gréco chantant une chanson de Zaz, ça serait magnifique. Elle n'a pas le droit. Elle a le droit, bien sûr, mais elle ne le fera pas. Voyez, parce que ça. Le problème, il est là, dans ce pays. Mais ce n'est pas très grave, parce qu'après tout, nous sommes des artistes, nous sommes libres, et nous avons ce que nous voulons. Et à partir du moment où nous avons un public à nourrir, j'allais dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. On ne chante pas Caprice est fini à 68 ans, comme on chante
exactement,
à 20 ans. Et on ne chante pas la même chose à 20 ans, qu'à 60 ans, ce n'est pas possible. Il y a des chansons que j'ai enlevées totalement de mon répertoire, parce que ça ne voudrait plus rien dire. Vous voyez. Mais par contre, bon... La fraîcheur, à condition de la garder, vous permet quand même de laisser quelques bonnes chansons de votre répertoire. Mais il faut aussi... Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ça, et que je le fais toujours, que je mette des chansons de Guy Béard dans mon répertoire, des chansons que j'essaie de déboussiérer et que je vais chercher dans les tiroirs.
Et puis à 60 ans aussi, donc on revient, quand on a le talent pour le faire, sur sa vie en l'écrivant. Et vous l'avez très très joliment fait déjà dans deux tomes d'une autobiographie, on peut dire.
C'est une trilogie.
Voilà, le troisième, on l'attend impatiemment.
Au printemps prochain, si Dieu le veut.
Mais en tout cas, c'est très beau, très haut en couleur, couleur un peu noir et blanc au début, un peu grise même, parce que c'est un pari
de guerre d'Algérie.
Presque, oui.
C'est un pari dans la guerre d'Algérie.
Encore un pari en noir et blanc, assez dur, d'une société qui a complètement disparu. Et c'est pour ça que peut-être, avant d'y revenir, on va écouter une chanson alors, d'une artiste qui symbolise vraiment ce monde de la rue, c'est Madame Berthe Silva.
Avec plaisir.
Riches ou pauvres, quoi qu'on fasse sur la terre, notre existence est une chose éphémère. Et des pendules, le tic-tac incessant semble nous dire tout passe avec le temps. Voici l'enfant qui vient de venir au monde, sa mère penchée vers sa petite tête blonde, vers la pendule placée près de son lit, jette un regard et soucieuse se dit: si l'on pouvait arrêter les aiguilles au cadran qui marque les heures de la vie, nos petits enfants, si mignons, si gentils, grandiraient pas pour déserter leur nid. Lorsqu'à 20 ans, un jour ils se marient, sans un regret, ils partent et vous oublient. Et les mamans, dont ils brisent l'espoir, pensent on voudrait près de soi toujours les voir. Restez petits, garçons ou petites filles, si l'on pouvait arrêter les aiguilles. Dans les campagnes ainsi que dans les villes règne le calme et chacun vit tranquille, sans se douter qu'un orage gronde au loin pour bouleverser la paix du genre humain. Un peu partout, en Europe, en Afrique, les noirs dessous de l'infâme politique sèment la guerre, horreur de tous les temps, que nul ne peut arrêter pourtant. si l'on pouvait arrêter les aiguilles au cadran qui marque les heures de la vie, on n'entendrait plus le tocsin sonner pour enlever nos fils à leur foyer. Quant à l'instant où tous les bras travaillent, quoi de plus triste que l'heure des batailles? Peut-être qu'un jour, retrouvant sa raison, l'homme maudira la guerre et ses passions. Plus de tueries, ni d'hommes qui se fusillent. Si l'on pouvait arrêter les aiguilles.
Vous l'aimez bien, Bert Silva?
C'est un chef-d'œuvre, cette chanson. Je la trouve très moderne, cette chanson. Vous savez que je vais la reprendre.
Et Hervé Villard, vous la chantez vous-même. Hein,
oui, je la chante en ce moment dans mon répertoire que je vais chanter à La Bruyère, au théâtre La Bruyère à Paris, à partir du mois de janvier. Oui.
Mais c'est vrai que j'imagine que vous ne connaissiez pas quand vous étiez enfant Bert Silva, mais le monde que vous décrivez, ça ressemble vraiment. Vous dites que c'est la guerre d'Algérie, mais ça ressemble presque aussi à la France d'avant-guerre. Hein, ces maisons pour les enfants abandonnées, ces maisons terribles, ces infirmières, dans les camions de l'assistance publique, etc. Vraiment, vous êtes traité comme des petits voyous en puissance avant même d'être devenus des grands enfants.
Tout à fait. À partir du moment où vous étiez de la DAS, vous étiez un voyou. Ouais. Je viens de l'assistance publique à l'époque. Il faut dire que, vous savez, l'État, la République, encourageait les filles mères à abandonner leurs enfants.
Alors, il y a cette loi Mendès-France que vous expliquez. Enfin, c'est...
Pas Mendès-France, c'était la loi de je ne sais plus. Enfin, c'est pas Mendès. Hein.
Il fallait repeupler les campagnes. Oui. Et donc,
voilà. Donc, comme les gens voulaient tous devenir fonctionnaires ou flics, vous voyez, dans des campagnes, les fils d'agriculteurs, tout ça, voulaient tous devenir des gens garantis par l'État, disant avoir une paye sûre, et que tout ça, ils désertaient les cambrousses pour aller s'entasser dans des HLM qu'on construisait dans ces fameuses banlieues. Maintenant. Et maintenant, donc, à partir de ce moment-là, aujourd'hui, par exemple, si vous constatez, vous allez dans la Nièvre, dans le Berry, dans les Côtes d'Armor, vous apercevez que tous les grands agriculteurs, les familles d'agriculteurs, sont de souche orpheline.
Voilà, parce que donc, dès que les parents avaient commis certains écarts vis-à-vis de la justice ou autre, on les encourageait à, au fond, laisser leurs enfants à l'assistance publique, surtout les femmes, ce qui était le cas pour votre mère. Donc,
voilà. Ma mère a été déchue de ses droits, mais ne m'a pas abandonné.
Elle ne vous a pas abandonné, vous l'avez retrouvé plus tard, vous l'avez raconté. C'est terrible d'ailleurs cette histoire, parce qu'il était un peu trop tard d'une
certaine
façon.
C'était trop tard, elle a beaucoup culpabilisé.
Elle a beaucoup souffert de cette histoire. Et vous avez eu donc cette enfance assez chaotique, avec des moments heureux d'ailleurs aussi, dans certaines familles plus que d'autres. En tout cas, au tout début, quand vous êtes parti à Saint-Amand-Montrond.
Les premiers sont
plutôt bien.
Non, c'est-à-dire que la première famille, j'étais très heureux d'agriculteur.
Oui, c'est ce que vous dites. Après, ça a été terrible.
La chose suivante, c'est que ma mère, ne m'ayant pas abandonné, me recherchait. Et chaque fois qu'elle situait la famille dans laquelle j'étais, on me changeait.
On vous changeait pour pas qu'elle vous retrouve.
Et j'en ai fait 7 comme ça. Alors ça, c'est évidemment, ça vous déracine et ça vous déstabilise un enfant très vite. C'est pour ça que j'ai touché largement la délinquance beaucoup plus tard.
Mais on y reviendra pour un autre personnage un tout petit peu après. Mais vous avez eu quand même quelques anges gardiens, quelques protecteurs, et notamment cet abbé dans votre enfance.
En grand, oui. Ah bah, qui était un grand théologien.
Qui vous a poussé à passer votre certificat d'études.
Oui, c'est lui qui m'a fait lire Stendhal à 11 ans. Et le reste, j'ai lu Chateaubriand, tout ça. Je lisais tout ça en dehors des... C'est-à-dire que j'étais dans une famille qui était terriblement communiste et qui était en accord avec l'instituteur qui l'était aussi et qui n'aimait pas trop les enfants déracinés, on va dire.
Non, ils étaient très durs avec
Eux. Donc cet instituteur était difficile. Donc, si vous voulez, je me suis rangé plutôt du côté de monsieur le curé et qui me faisait lire. Et donc, les enterrements, les mariages, les baptêmes, tout était bien sûr prétexte pour ne pas aller à l'école, n'est-ce pas? Donc, pour compenser cela, quand je faisais les mariages, les enterrements et les baptêmes, pendant que mes camarades allaient à l'école, monsieur le curé me faisait lire Stendhal, ou autre chose, bien entendu. Et donc, à partir de ce moment-là, il a enrichi un petit peu mon vocabulaire, et j'ai été reçu premier prix d'orthographe du canton grâce à mon certificat d'études, grâce à monsieur le curé.
Et puis, vous aimiez déjà chanter aussi. Vous ne connaissiez pas vraiment la musique, mais vous chantiez.
Je chantais tous les matins. Tous les matins, on me demandait, sur le chemin de l'école, on me demandait de chanter les agriculteurs qui sortaient le fumier sur leur tapis.
Alors, on se croirait dans un film de Jacques Tati.
Sur le bord de chemin, me demandaient de chanter. C'était magnifique, c'est l'enfance.
Je suis le vagabond, le marchand de bonheur. Je n'ai que des chansons à mettre dans les cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre tour. Passer au vent léger, au bon vent de l'amour. J'ai les quatre saisons pour aller flâner et semer des moissons de baisers. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer. Quand elle était pour chanter. Vous êtes des enfants qui vous donnez du mal pour vous aimer et du mal pour pleurer. Mais moi j'arrive à temps, à temps c'est bien normal pour aller réparer ce que vous déchirez. J'ai les quatre saisons pour sécher vos fleurs et changer l'horizon de vos cœurs. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter. Je donne à bon marché de quoi rire d'amour, de quoi rire d'amour, plutôt que d'en pleurer. Je ne demande rien pour me dédommager d'avoir sur mon chemin la joie que j'ai donnée. J'ai les quatre saisons pour sécher vos pleurs et changer l'horizon de vos cœurs. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter. Je suis le vagabond, le marchand de bonheur. Je n'ai que les chansons à mettre dans les cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre tour. Passer au vent léger, au bon vent de l'amour.
Voilà, on imagine le petit Hervé Villard à 13-14 ans.
Je chantais ça tous les jours.
Chantais ça sur la
C'était
route,
ma chanson
dans
fétiche.
Le centre de la France, à la campagne.
Oui,
où
c'est ça qui est merveilleux dans la chanson.
Oui.
C'est qu'après, on garde ça dans son cœur,
oui.
On nourrit ça tout. Ça
oui.
nourrit toute votre vie.
Oui, c'est vrai. Oui,
les petites chansons
choses,
de l'enfance,
oui,
comme
oui,
ça.
Vraiment,
comme c'est
oui.
beau. Peu importe quelle que soit la chanson. Ça peut oui. être une imbécilité. Ça peut être n'importe. Ou le plus beau chef-d'œuvre. Mais c'est ça qui est beau. Et moi, cette chanson-là, elle reste profondément dans mon cœur.
Mais ça me fait penser à une chose, c'est qu'au fond, vous avez eu un début de vie quand même très, très difficile. Et puis oui. par la suite, vous avez souvent chanté des chansons très romantiques. Mais en
oui.
même temps, il y a aussi un côté heureux chez vous, dans votre nature, qui vous a peut-être aidé et même sauvé à certains
j'exorcise,
moments.
J'exorcise.
Vous
c'est que je ne suis pas de ces orphelins qui passent leur temps à dire qu'ils ont passé une vie malheureuse.
Voilà.
Non, j'ai beaucoup.
Vous ne considérez pas qu'il y a des coupables de ce que
non,
vous
non,
êtes
Non, je suis assez du côté de cynique là-dessus, sur la résilience. Je m'en sers beaucoup, je dois dire.
Alors, dans ce très beau livre, hein, L'âme seule, premier tome de vos souvenirs, paru il y a déjà quelques années, mais vraiment que je recommande parce que ça se lit très facilement, c'est très joli, c'est très vivant,
c'est en poche,
c'est présent. Et donc, vous racontez après votre montée à Paris,
oui.
la petite délinquance entre Pigalle et...
Paris, pleine guerre d'Algérie, hein, n'est-ce pas ?
Oui, en pleine guerre d'Algérie, où des gens de l'OAS vous font aller marquer des instructions,
graffitis
sur les murs, etc.
C'est-à-dire que j'ai fait 52 fugues. J'étais à l'hospice Saint-Vincent-de-Paul.
Ouais.
Et là, tous les gamins, nous rêvions tous on va dire, d'Elvis Presley, de chanteurs. Et moi, c'était Dalida.
Voilà. Et alors, c'est ça. Vous n'aviez déjà que cet amour-là, hein, qui avait commencé même presque... J'ai vu à la campagne, il y avait les balles où il y avait Dalida, Gloria
voilà.
Lasso, c'était ce répertoire-là.
Voilà, c'était les italiennades. Vous comprenez,
les
il fallait ça. Mais alors, ce qu'il y avait, c'est que je connaissais pas son physique.
Ouais.
C'est cette voix qui m'avait envoûté.
Ouais.
Alors, et vous savez que les orphelins, nous, la plupart, étaient tous... et le sont certainement encore de grands mythomanes. C'est-à-dire que ça invente un monde, un monde
ouais,
de rêve.
Ouais.
Donc moi, en orphelinat, je disais, c'est la mère de ma... c'est la copine à ma cousine,
c'est la copine à ma mère,
oui. et tout ça. Et donc, un jour, je vais vous la faire très courte, j'ai écrit à Dalida.
Oui.
Madame, je voudrais recevoir 24 000 baisers de votre part. Puisqu'elle chantait une chanson qui s'appelait 24 000 baisers, elle m'a envoyé un soir de Noël, le jour de Noël, j'ai reçu une petite carte dédicacée de Dalida. Et qui, l'enfant que j'étais, je ne voudrais pas vous faire pleurer ce matin, il est très tôt, mais l'enfant que j'étais n'avait jamais reçu de courrier en orphelinat. Donc, si vous voulez, ouais, j'ai gardé ça très profondément ouais. et je suis resté très attaché
Messieurs,
à cette
femme. Messieurs, les artistes, répondez à votre courrier, vous pouvez sauver des,
voilà,
sauver des
qui vies. Qui est devenue ma grande amie par la suite.
Qui est devenue votre grande amie, évidemment. Plus tard, on voit aussi que vous avez carrément souffert de la faim dans les rues de Paris. Hein, oui, vous vrai. Couchiez dans une espèce de cabanon.
C'est douanel aussi.
Et puis, tout d'un coup, voilà, à Montparnasse, vous rencontrez Dado, le grand peintre. Que vous
un peintre immense.
Immense, qui peignait là dans la rue une œuvre un peu extravagante à sa façon. Et qui a vu que vous aviez faim, il vous avait fait partager son sandwich.
Alors, exactement. Il faut garder la délinquance dans le lot. Parce que c'est-à-dire qu'il peignait une grande fresque qui s'étendait, puisqu'ils avaient l'intention de faire tomber la gare Montparnasse. Il avait tendu une grande fresque et jetait de la peinture dessus. Ouais. Évidemment, il y avait des badauds qui regardaient ça avec admiration, ou je ne sais pas, qui s'interrogeaient. Et moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas du tout ça. C'était le sandwich qui était posé sur le bord de sa tablette. Et à un moment, il l'a vu dans ses yeux. Il a vu que j'allais lui piquer son sandwich. Donc, il l'a pris, il l'a partagé en deux.
C'est merveilleux.
Et on peut dire que ma vie a basculé ce jour-là.
Parce que Dado vous a... Alors, j'ai envie de dire, juste pour vous nourrir d'ailleurs, vous a dit, ah bah viens à mon vernissage, avenue Matignon, je ne sais pas où, dans quelques jours.
Rue Miroménil.
Viens à mon vernissage, il y aura à manger, tu pourras prendre des
tu pourras t'en
fours.
Mettre plein la gueule.
Et c'est là que vous avez rencontré... Alors, on ne va pas trop développer, mais quand même, disons-en un mot, parce qu'il est en plus aujourd'hui encore dans l'actualité, ce personnage extraordinaire qui vous a sauvé, qui vous a pris sous sa protection, qui est Daniel Cordier, compagnon de la Libération, qui vient de publier un livre que j'ai trouvé très beau d'ailleurs, de ses propres souvenirs d'adolescent au pensionnat Saint-Elme à Arcachon.
Voilà.
C'est un homme qui a aujourd'hui 94 ans, qui fait partie de l'histoire de France et qui vous a sauvé parce que simplement il a vu que vous étiez dans la mouise et il vous a pris sous sa protection. Et
il n'y a pas que moi. Il a sauvé beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles.
Ah oui, il en a eu d'autres.
L'histoire est simple. L'histoire est simple. C'est-à-dire que comme je suis allé donc à ce vernissage, je ne vais pas trop m'étaler.
Parce que Cordier, à l'époque, était aussi directeur de cette galerie. Donc.
J'ai bouffé les petits fours et je suis allé. Donc là, il y avait Fautrier, il y avait des grands peintres, du buffet et tout ça. Et il y avait une femme qui s'appelait Marie-Laure de Noailles et tout ça, qui était, et que j'avais croisée autrefois. Bien longtemps avant, dans une
voiture, qui
m'avait fait monter dans sa voiture, enfin, c'est très beau, et qui allait chez le comte de la Rochefoucauld. Bien, et donc, à un moment, Dado a dit, ben voilà, mon petit protégé. Parce que je disais, mais qu'est-ce qu'il est ? Il y a 9h, il est encore là, on va fermer. Et moi, j'étais en train encore de manger le reste de petit four. Vous en savez. Donc, Dado a dit, c'est mon petit protégé. Et pour la première fois, je n'ai pas menti. J'ai dit que je m'étais évadé. J'aurais pu dire, mes parents habitent Lyon, enfin, n'importe quoi, comme je faisais souvent. Et là, je n'ai pas menti à Daniel. Et Daniel et Marie-Laure de Noailles m'ont prié de venir déjeuner le lendemain avec lui. Et je suis allé déjeuner. Et Daniel a dit, à la fin du déjeuner, a dit, tu retournes en orphelinat et je t'en sors.
Il vous a sorti légalement.
Voilà. Et j'ai attendu un mois et demi. Je peux vous dire que c'était long.
Il vous a donné une chambre. Il vous a trouvé du travail. Il vous a donné des cours de chant. Il vous a adopté plus tard.
Oui.
Du point de vue légal, je veux dire.
Oui, tout à fait.
C'est une histoire extraordinaire. Et alors, disons en quelques mots, puis on va quand même réécouter. On peut pas ne pas le faire dans cette émission. Un petit bout de Capri. Capri, vous l'avez écrit d'une certaine façon pour prouver à Daniel Cordier que vous étiez capable d'écrire une chanson.
Vous savez tout. Mais j'ai prouvé parce que j'ai donc signé mon premier contrat avec une chanson de Bourvil qui s'appelait Le petit bal perdu. On se disait, ce gosse qui a la gueule du petit Douanel de Truffaut, qu'est-ce qu'il fait là, nous chanter des chansons si tristes.
Donc,
parce que j'adorais Juliette Gréco qui chantait cela à l'époque. Et j'étais disquaire. Donc voilà, l'affaire est simple. Donc, quand Cordier m'a dit, maintenant il faut te plier, t'as signé ton premier contrat, t'as qu'à faire ce qu'on te demande, c'est déjà pas mal que t'aies signé. Et moi, on m'avait proposé des chansons comme à présent, tu peux t'en aller, enfin, de chansons américaines.
Tout ce que faisaient les yéyés,
et c'est tout ce que je n'aimais pas, moi. J'aimais Mouloudji, vous voyez, j'aimais tout ça. J'aimais Un jour tu verras, j'aimais Boris Vian, j'aimais tout ça. Et donc, j'ai donc dit à Daniel, bah, écoute, puisque c'est pas là, je vais l'écrire moi-même. Et j'ai écrit Capri c'est fini, par défi, pour prouver à Cordier que j'étais capable.
Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour.
Alors là, Hervé Villard, c'est pas tout à fait la version originale d'ailleurs.
Non, ça, c'est pas celle que j'ai enregistrée en direct dans le studio avec des musiciens, où il y avait Kenny Clarke, Jacques Dangean, Eddie Louis et tout ça. Ça, c'est une version que j'ai faite pour l'étranger. C'est un disque que j'ai enregistré à l'étranger pour le Japon, pour l'Amérique latine, de chansons françaises.
Voilà, parce que vos chansons ont été connues dans le monde entier très très vite.
À commencer entier, par celle-ci. Peut-être pas, mais une bonne partie
du monde. Mais vous dites qu'Eddie Louis était là dans la première séance.
Oui, oui, oui. Bah, vous savez, les musiciens de jazz dans les années 60 venaient tous croûter grâce à la variété. Ils gagnaient pas tellement leur vie. Alors moi, quand dans la première version de Capri, c'est fini, je suis rentré dans le studio, on m'a dit, vous voulez chanter en direct? J'ai chanté en direct. Ouais. Je ne savais pas faire autrement. J'avais les jambes qui tremblaient, évidemment. Ouais. Il y avait quand même Kenny Clarke à la batterie.
C'est extraordinaire.
Vous voyez, Eddie Louis, et je vous en passe, Maurice Vander, vous voyez, tous ces gens, et gagnaient leur vie grâce aux chanteurs de variété.
Oui, beaucoup de studio. Et à ce moment-là, donc, en fait, vous qui étiez, disons, on peut dire plutôt de la génération du twist, vous êtes devenu avec Christophe le roi du slow.
Oui.
Hein, ça vous dérange pas qu'on dise ça comme
ah
ça?
Ah non, pas du tout, pas du tout.
Parce que vous avez créé presque un style, je veux dire, c'est une espèce de musique très balancée, très lente, appuyée sur les temps et qui tourne bien, qui a un côté un peu latin comme ça. Oui,
il faut dire que Jacques Dangean, qui est un homme du jazz, grand orchestre, c'est un grand musicien de jazz, Jacques, l'orchestrateur qui avait fait Aline. C'était été là.
Il a fait les deux.
Il a fait Aline et Le Soleil et la Mer de François de Gelt. Il a fait trois succès, les orchestrations de trois grands succès dans l'été 65. Et c'était les mêmes musiciens qui jouaient dans les trois.
Et c'est une recette qui marche très bien. On peut dire le mot recette parce qu'il y a aussi ça un peu dans la chanson.
Alors, il faut reconnaître. Mais je dois vous dire qu'au départ, Capri c'est fini était une valse.
Vous l'aviez écrit comme une valse.
Et que moi, j'avais entendu une chanson de Rita Pavone qui s'appelait Cuore, avec une petite basse comme ça qui fait pam, 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 pam. Et je tenais à ce gimmick. Et il ne voulait pas me mettre ce gimmick dans la. Imaginez que sans la basse, pam, 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 Capri, c'est fini, il n'aurait jamais été. Capri, c'est fini. Donc, c'est il ne voulait pas me l'enlever. J'ai insisté, taper du pied comme on peut taper à 15 ans pour que ça arrive. Voilà.
Enfin, vous n'étiez pas yéyé, mais on vous a parfois surnommé le petit prince du yéyé, non? Des
non.
choses comme ça, non?
Ah, je déteste ça. Ah, bon, je détestais ça. Je n'aimais pas du tout ça.
Et avec Clo-Clo, ça ne s'est pas bien passé non
je
plus.
Je ne m'entendais pas du tout.
Pas du tout. Vous avez fait une tournée avec lui.
C'était un grand artiste bien travailleur. Mais ça n'était pas un homme très humain.
Pas très humain, donc c'est ce qu'on comprend dans vos récits. En tout cas, ce succès extraordinaire a évidemment changé votre vie. Effectivement, il a gagné plusieurs pays. On va revenir à votre départ tout d'un coup. Au fond aussi, vous êtes un peu éloigné, vous êtes parti en Amérique du Sud. Ouais. Mais peut-être on va d'abord réécouter une autre chanson entre deux parmi celles que vous avez choisies, parce que je la trouve tellement merveilleuse.
Alors, laquelle j'ai choisie?
Cosimon, musique légère.
Ah, bah j'adore. Je vais chanter ça aussi à la Bruyère. C'est pour ça que j'ai choisi ces chansons. Pour que,
c'est votre nouveau répertoire.
Musique légère. Non, mais c'est-à-dire que voilà, je pense que je suis en âge de chanter ça, écouter ça, puis après on en parlera après.
Léger, de plus en plus léger, désormais telle est ma devise, léger au point que je ne peux me rappeler l'âge que j'ai. Le temps sur moi n'a plus de prise et l'avenir m'importe peu. Je frisote mes tempes grises, je suis tout léger, tout léger. Léger, de plus en plus léger. J'aimais le printemps et la brise maintenant d'auprès de mon feu. Plus rien ne peut me déloger. Même en plein mois d'août je l'attise, je ne sors plus, j'en fais l'aveu. Le vent du nord est ma hantise, je suis trop léger, trop léger. Léger, de plus en plus léger. S'il me faut subir les sottises d'un philosophe ou d'un pas bleu, je garde un sourire figé. Mes souvenirs s'idéalisent et je me laisse prendre au jeu. Je n'ai connu que des marquises, j'étais bien léger, bien léger. Léger, de plus en plus léger. Je reçois cousine Héloïse, elle rougit jusqu'aux cheveux quand je dis tu n'as pas changé. Je lui compte les paillardises, cela nous suffit à nous deux, et mes façons restent exquises, je suis très léger, très léger. Léger, de plus en plus léger. De tabac, je hume une prise, j'esquisse un pas de danse ou deux, mais que tout me semble étranger. Bientôt je mourrai par surprise, sans père de Dieu, sans un adieu, comme un fil de cristal se brise, je suis si léger, si léger. Je suis si léger, si léger. Je suis si léger, si léger. Léger.
Moi qui ai la responsabilité d'animer la tranche de musique légère sur France Musique. Là, c'est un joli cadeau que cette chanson de... qui s'appelle précisément Musique légère. Et c'est votre nouveau répertoire,
c'est
un chef-d'œuvre. Hervé Villard.
Je trouve que c'est une chanson, vous savez, quand les mots ne peuvent plus se dissocier de la musique, font corps avec la musique.
C'est ça.
La chanson est réussie. Ouais. Et je pense que Simon a écrit des chefs-d'œuvre, des chansons magnifiques. Et il ne faut pas que ces chansons-là meurent. Il faut qu'on continue, nous.
Oui, bien sûr.
Notre devoir.
Vous croyez à la qu'une chanson n'appartient pas forcément seulement à son créateur, mais qu'elle est faite pour être reprise au fil du temps.
Surtout, vous savez, je suis très frustré, moi, qu'il n'y ait pas une maison de la chanson française en France comme la Comédie-Française, qui chaque année devrait chanter le répertoire. Vous avez suivi un moment de bons chanteurs, de petits chanteurs débutants, qui se ferait un plaisir de venir chanter, apprendre. Ça, on ne peut pas laisser mourir ces chansons-là.
Les Français ne savent pas qu'ils ont une grande histoire de la chanson.
Vous êtes chargé sur la France Musique, tout ça, c'est formidable. C'est encore très bien qu'il y ait ça.
Oui.
Mais malheureusement, on n'entend pas beaucoup ces choses-là. Et on devrait quand même. C'est la moindre des choses. Hein. La France, c'est la chanson. La France, c'est le pays de la chanson.
Mais les Français ne le savent pas.
Non, c'est curieux. Hein.
Oui.
Mais il en est de même un petit peu pour Molière. Aujourd'hui, c'est un peu dommage.
Alors, merci en tout cas pour cet appel que je partage entièrement, Hervé Villard. On disait, oui, alors, vous avez, bon... Il y a des chanteurs qui ont le malheur dans leur vie, j'en ai reçu parfois certains, c'est toujours un peu gênant d'avoir eu dans leur vie un seul tube, et puis après ils courent après toute leur vie, vous en avez eu beaucoup. Et en même temps, il y a des hauts et des bas dans une carrière, il y a des moments où vous êtes éloigné, vous avez décidé par exemple en 71 de partir en Amérique du Sud.
Oui, vous savez, parce que la vie se nourrit de voyages.
Ouais.
Et en ce qui me concernait, moi je n'ai pas de famille, n'est-ce pas? Donc j'ai eu du mal, je n'ai pas réussi avec ma mère à en fonder une, donc c'était très difficile. Donc je faisais des sauts de puce comme ça. Et lorsqu'on m'a proposé de partir chanter au Brésil, j'ai rencontré là-bas des musiciens hors pair, comme Vinicius de Moraes, Edu Lobo, Antonio Carlos Jobim, qui faisaient sauter sur leurs genoux, qui adoraient chanter mes chansons. Et puis, j'allais chez eux dîner. Donc, je suis parti pour faire une tournée de 3 semaines, je suis resté 3 mois. Puis ensuite, je suis parti en Argentine, je suis resté 3 semaines. Et puis, je me suis installé là-bas.
Vous êtes
parce que j'ai voulu devenir un chanteur latin.
C'était au Mexique très bien. Aussi, vous avez connu des grands succès.
Et puis, j'ai rencontré des gens comme Borges, comme Pablo Neruda au Chili. Et donc, si vous voulez, je me suis imprégné aussi beaucoup de la chanson, de la musique latine, parce que, pour tout vous avouer, Il y avait aussi des Guy Lux argentins et des Michel Drucker mexicains. Vous comprenez ? Je faisais exactement le même métier là-bas. Alors, je fais exactement la même chose là-bas. Mais en plus, j'avais l'impression de m'enrichir. Et ça m'a permis d'aller, de faire le tour du monde en chantant avec la langue espagnole. J'allais chanter en Amérique latine et en Amérique du Nord, où on me prenait pour un chanteur mexicain, par exemple. Voyez ? Alors, je chantais Caprice et Fini en espagnol. Et naturellement, beaucoup de chansons que j'avais chantées en français, mais aussi beaucoup de créations que j'avais fait là-bas avec des compositeurs mexicains et argentins.
Mais en même temps, comme Paris est une ville qui est très, très tournée sur elle-même, quand vous êtes revenu, il fallait un peu remettre les choses en route parce que Paris avait pris un peu ses distances.
C'était qu'on on se disait, bon, oui, il est foutu, il est cuit et tout ça. Et on se disait, mais il a pu un rond et tout ça, alors que j'avais des dollars plein les poches. Je gagnais tellement d'argent là-bas que je n'en avais jamais autant gagné. Vous voyez, c'était on n'était pas à l'époque d'Internet, donc on ne savait pas encore tout ce qui se passait là-bas. Donc il fallait prendre des attachés de presse. Et moi, je n'ai jamais été très favorable à ça, d'essayer de vivre pour la postérité. Ça ne m'a jamais véritablement intéressé.
Et puis, vous avez alors quand même bluffé tout le monde là, avec un nouveau, mais méga tube. On va juste écouter le début, parce qu'il faut que les gens se rappellent quand même que c'est aussi vous qui avez rendu cette chanson très, très célèbre en France, qui est arrivée donc à la fin des années 70.
19.
D'un éclat de rire en plein cœur, une histoire de rien du tout, comme il en existe beaucoup. Notre amour qu'on croyait petit a grandi quand tu es parti, grandi comme une déchirure, comme une blessure. Mais pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?
Pourquoi le silence? Pourquoi?
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 Pourquoi ce grand vide quand je pense à nous? C'était comme un défi au temps, le printemps avant le printemps, un chemin qui va n'importe où, mais semé de roses partout.
Voilà, alors, énorme tube de 1979. Oui. Là, les arrangements, d'ailleurs, sont d'Hervé Roy.
D'Hervé Roy, qui était un musicien considérable.
Et vous, Hervé Villard, vous aviez... Il y a des chanteurs qui arrivent en studio, puis voilà, ils laissent tout faire par leur arrangeur. Vous aimez bien quand même travailler avec les musiciens sur la couleur de l'album.
Je dormais sur les canapés d'Hervé Roy pour dire voilà, là tu vois comment ça travaille. Pas le son. Le travail de studio ne m'intéresse pas tellement. Par contre, la musique pour pouvoir poser les mots, les arrangements m'intéressait beaucoup parce que je ne suis pas très très doué. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui a l'instinct qui swing vraiment, quoi. Je veux dire, je suis un chanteur latin, donc il faut que je pose
avec
les mots.
Avec ce balancement toujours, slow. Latin,
que je n'écorche pas les mots, donc c'était très difficile. Et donc, je demandais à Hervé de bien habiller tout ça, comme une robe sur mesure, si vous voulez.
Mais alors, nouvelle série de tubes, alors à la fois slow, oui. Et aussi, pas seulement, mais aussi méditerranéen, Venise, méditerranéenne, des nouvelles chansons qui arrivent.
Venise pour l'éternité, Venise c'est pour la réponse à Capri.
Et un homme derrière tout ça aussi, Coutinho.
Italien, Toto Coutinho, qui est un Italien, un vrai Italien, n'est-ce pas, de Sicilien, et qui vivait à Milan. Et un jour, en revenant de Buenos Aires, il me parle, il me dit, mais toi, tu chantes Modugno, tu chantes Battisti, et tu chantes pas moi. Moi, j'ai écrit l'été indien. Alors, je lui dis, ah bon, ben, donne-moi ta carte. Et je prends sa carte, je l'ai appelé, et nous avons fait quelques chansons. Je l'avais rencontré sur les Champs-Élysées, j'ai travaillé pendant 3 mois à Milan, et pour vous donner un chiffre approximatif, avec lui, nous avons fait 15 millions de copies.
Ah oui, c'est extraordinaire.
De chansons,
ouais.
Avec nous, Venise, méditerranéenne, que je ne voulais pas chanter au départ, méditerranéenne.
Vous ne vouliez pas chanter?
Non.
Vous aviez peur du que quoi que
je n'aimais pas le texte de italien qu'il
avait. Ah oui,
avait un leçon italien qui chante la guitare sous la fenêtre de l'autre. Donc un jour, je suis allé en Camargue, et j'ai toujours un petit capin sur moi, et j'avais vu une petite fille blonde qui dansait parmi les gitans, et j'avais écrit « Qui t'a donné ce déhanché, la majesté d'être nu-pied au milieu des gitanes ?» Et la chanson est partie.
Contrairement à Capri, enfin, il y en a quelques autres, mais vous n'avez pas absolument volontairement persisté dans le double rôle auteur-compositeur.
Non. Hein, j'ai fait,
j'ai
chanté du Berger, j'ai chanté un petit peu de tout. J'ai appelé un peu d'autres gens pour essayer de. J'ai donné beaucoup de chance à certains qui sont devenus des grands dans ce métier, et ça m'a beaucoup intéressé, justement d'aller vers les autres. Je n'ai pas, et puis moi je suis un autodidacte, je joue du piano sur quatre doigts. Je ne joue pas, j'adore Schubert, mais c'est pas du tout le musicien que je...
Non, mais vous connaissez bien la musique classique, parce qu'on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, après que Daniel Cordier vous ait pris sous sa protection, et avant d'enregistrer Capri, vous avez été quelques mois disquaire sur les Champs-Élysées.
Deux ans.
En un temps où les grands magasins de disques parisiens, c'était quelque chose d'unique, on n'imagine pas aujourd'hui. C'était les temples de la musique, on y trouvait des disques qu'on trouvait nulle part ailleurs, et le tout Paris se pressait là pour venir acheter ses disques. Vous avez rencontré tout
le monde.
J'étais
au service
et vous avez été au rayon classique aussi.
Et au service jazz, mais j'ai fait ma grande formation au service classique, où Elisabeth Schwarzkopf, Callas venaient acheter leurs disques.
Vous alliez porter les disques chez Maria Callas.
Oui, j'ai vu Madame Callas manger du saucisson dans la cuisine, moi, monsieur.
C'est très joli, mais cela dit, c'était vraiment...
Si vous voulez l'anecdote, pour faire court, elle venait souvent, elle était venue acheter trois polonaises de Chopin par Xifra, je m'en souviens. Et très bien. Alors elle me disait, mais qu'est-ce qu'il y a comme chanson à Paris en ce moment? Alors, bien sûr, moi, j'étais payé un petit peu au pourboire, et donc je lui avais recollé Adamo, Dalida, et tout le reste. Et dans toute cette pile de chansons, il y avait la chanson de Barbara, Nantes. Oui. Et elle a rappelé, en me disant, cette chanson me bouleverse. Au magasin, on m'a dit, oh, je te passe Callas. J'ai dit, l'autre, il me dit, je passe Madame de Gaulle. C'est pas vrai. Et c'était effectivement. Elle m'a dit, je voudrais offrir cette chanson à tous mes amis. Et j'ai donc trouvé 15 enregistrements, 15 disques de Callas que j'ai livrés chez elle, avenue Georges Mandel. Et on a souvent discuté. Et après, je suis devenu le petit vendeur de disques de Callas préféré à Paris.
Et voilà, c'est quand même beau comme anecdote.
Ce qui me fournait l'avantage d'avoir des billets pour aller voir entendre chanter Callas quand même.
Oui.
Bien placé en plus.
Oui, c'est pas rien non plus. Effectivement.
Pas rien. Oui, oui.
Vous avez cité Adamo, c'est une vraie fidélité aussi. Vous l'avez aimé tout de suite à l'époque où
on avait qu'il supportait pas sa voix. Il avait des chansons qui s'appelaient comme Dolce Paola, tout ça, Blue Jean et Blouson de cuir. Je me souviens de toutes ces chansons. Et moi, j'adorais ce chanteur et personne n'en voulait parce qu'on disait une voix de fille, c'est machin, un truc. Et j'ai placé Tombe la neige dans 250 discothèques à l'époque. Il m'en est revenu 249, je l'ai replacé en tournée d'hiver et la chanson est partie.
Et puis alors Hervé Villard, avant même que vous ne deveniez chanteur à texte, si j'ose dire, chanteur poétique, avant même que vous ne chantiez ces chansons, je crois que Marguerite Duras adorait vos chansons.
Oui, ça c'est encore une belle rencontre.
Oui.
C'est ce que je vous disais, ma vie est magnifique, quel privilège de faire un métier pareil et de rencontrer des gens tellement comme ça. Marguerite m'a envoyé des mots.
Oui, c'est ça.
J'avais écrit une chanson sur un hommage à Fitzcarraldo qui s'appelait Le bateau sur la montagne. Elle adorait cette chanson, mais elle m'avait dit Capri, c'est fini. Alors, un jour, vous viendrez me chanter à l'oreille Capri, c'est fini.
Ah oui, c'est
drôle. Je suis allé lui chanter. Je suis allé là-bas, à Trouville, aux Roches Noires. Et nous avons passé quelques temps. Je n'ai pas passé ma vie avec Marguerite Duras, mais les moments que j'ai passés avec elle ont duré une éternité. J'adore sa littérature. J'adore cette femme.
C'est elle qui vous a donné envie d'écrire ?
Je chante aussi ses chansons.
Vous chantez aussi ses chansons, est-ce que c'est elle qui vous a donné envie
plume ? En tous les cas, j'ai tenu compte de son talent en relisant bien, en faisant attention, en essayant d'être un bon élève. Mais surtout Chateaubriand, j'aime beaucoup Chateaubriand aussi.
On va écouter, alors vous l'avez évoqué aussi à propos de Maria Callas, Barbara. Elle fait partie des artistes dont vous aimez aujourd'hui reprendre aussi les chansons, auxquelles vous aimez rendre hommage.
Oui, oui.
Et là, c'est un extrait d'un Olympia 2007.
Que j'ai fait, j'aime bien faire des chansons comme ça, surprise, que les gens ne connaissent pas forcément. Trop tard, c'est pas la chanson la plus connue de Barbara, mais c'est une chanson qu'elle a écrite avec Jean-Jacques Debout que je trouve excessivement belle.
C'est trop tard pour verser des larmes maintenant qu'ils ne sont plus là. C'est trop tard, retenez vos larmes. Trop tard, ils ne les verront pas. Car c'est du temps de leur vivant qu'il faut aimer ce que l'on aime. Car c'est du temps de leur vivant qu'il faut donner à ce qu'on aime. Ils sont couchés dessous la terre, des maisons froides et nues, où n'entrera plus la lumière, plus rien ne résiste plus. Que feront-ils de tant de fleurs, maintenant qu'ils ne sont plus là? Que feront-ils de tant de fleurs, tant de fleurs à la fois? Aviez-vous leur offrir des roses, du temps qu'ils étaient encore là? Il aurait suffi d'une rose qu'ils auraient apprécié, je crois. Que vous sachiez dire je t'aime, disiez plus souvent, il aurait fallu qu'on les aime, du temps de leur vivant. C'est trop tard pour verser nos larmes, maintenant qu'ils ne sont plus là. Il fallait faire taire les âmes, tant qu'ils étaient encore là, ils verraient encore la lumière. Les oiseaux chanteraient encore, ils verraient se coucher la mer contre les plages d'or. Mais il nous reste que nos regrets, il nous reste que nos remords, mais ils ne le sauront jamais. Ils n'entendent plus, c'est trop tard, trop tard, trop tard.
Hervé Villard, à l'Olympia en 2007. L'Olympia, c'est une maison où vous avez été heureux. Hein.
Oui, oui. Bon, ça,
vous êtes retourné souvent.
Bon. Oui, c'est là que j'ai débuté. C'est là que je terminerai certainement.
C'est là où vous avez le temps encore, parce qu'entre-temps, il y a le Théâtre La Bruyère bientôt.
Ah oui, oui, c'est au mois de janvier. Ben là, je vais chanter justement tout ça.
Et c'est là où vous allez reprendre toutes ces chansons qu'on
Duras a... et toutes les autres. Jean Genet aussi, je vais chanter.
Jean Genet, que, que vous avez croisé dans votre époque un peu racaille.
Oui, même très racaille. Oui. Mais que j'ai continué à rencontrer dans le 14e arrondissement. Je n'étais plus une racaille, j'étais devenu un chanteur et il était très étonné.
Ah oui, c'est vrai. Écoutez, mais que de chapitres qu'on retrouve en grande partie d'ailleurs dans vos, dans vos, les deux premiers tomes de vos souvenirs. Donc le premier s'intitule L'âme seule, le second
ça s'appelle Le bal des papillons.
Le bal des papillons. Et le troisième, on l'attend depuis un petit moment là déjà.
Du vierre dans les arbres. Falloir... Oui, mais attendez, il faut quand même. Hein, on n'écrit pas comme ça, je ne suis pas un écrivain, moi, je suis un élève appliqué.
C'est gentiment dit, mais c'est beaucoup mieux que ça, je les recommande beaucoup. On va se quitter avec Reviens, encore un tube, parmi voilà, une pléiade d'autres. Je rappelle aussi que d'ailleurs vient de sortir, je crois, une compile avec beaucoup de...
Oui, ah bon, encore
voilà, Hervé Villard, le dernier romantique, il y a plein de choses.
Je ne suis pas au courant. Bon, il paraît. Bon,
et merci d'avoir été avec
nous
ce matin.
Merci, c'est un plaisir de venir jusqu'à vous.
Reviens, elle est là, près de moi, elle est belle. Je te vois quand je suis avec elle. après tout, après toi, je n'ai rien. Tu sais bien. Reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. C'est écrit, c'est certain, je l'oublie. J'ai gardé une place au soleil pour toi.
Voilà, c'est un peu court, mais on termine quand même avec un vrai slow à la Villard, à côté de toutes ces belles chansons qu'on a entendues aujourd'hui, que vous pourrez donc retrouver très prochainement au Théâtre La Bruyère. Ce sera au mois de janvier. Il est midi 12 sur France Musique, c'est l'heure de la chronique de Jean-Christophe Keck. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour mon cher Benoît.
Et merci d'être au rendez-vous pour la première fois en cette nouvelle saison et pour toujours prêcher la bonne parole offenbachienne.
Bien sûr, vous savez que c'est un immense plaisir de partager l'antenne un peu avec vous. Et cette année, nous avons souhaité recentrer notre chronique sur Offenbach afin de commenter en musique les grands moments de l'actualité offenbachienne ici et ailleurs. Et en cela, la saison à venir va être particulièrement riche en événements de première importance, à commencer par la sortie dans quelques jours sur le territoire français de l'enregistrement intégral d'un pur chef-d'œuvre, oui, je dis bien un pur chef-d'œuvre, d'une des perles rares de l'opéra comique français, Fantasio, d'après la pièce d'Alfred de Musset. Alors, un ouvrage créé en 1872, au lendemain de la défaite de la France face à la Prusse, c'est-à-dire le pire contexte imaginable pour notre pauvre Offenbach, d'où un bien triste début de carrière d'ailleurs pour ce véritable joyau musical. Alors la sortie de cet album chez Opéra Rara, label anglais, qui à mon avis est un événement aussi important que la résurrection des Fées du Rhin il y a quelques années, eh bien cela nous donne l'occasion de brosser les grandes lignes des balbutiements radiophoniques et discographiques de Fantasio. Alors le premier enregistrement français est bien modeste, puisqu'il s'agit d'un simple extrait accompagné au piano dans une interprétation charmante, mais aux antipodes des souhaits du compositeur quant au tempo et à l'ambiance générale lunaire de cette pièce. Voici tout de même un document maison provenant des archives de l'INA, la Ballade à la Lune, chantée par Camille Moran.
Voyez dans la nuit brune, sur le clocher jauni, la lune comme un point sur un nid. Lune, quel esprit sombre promène au bout d'un fil dans l'ombre ta face et ton profil. Qui t'avait épargné l'autre nuit, t'es-tu cogné à quelque arbre pointu? Lune, en notre mémoire de tes belles amours, l'histoire t'embellira toujours. T'aimeras le vieux pâtre seul, tandis qu'à ton front d'albâtre, ses dogues aboieront. T'aimeras le pilote dans son grand bâtiment qui flotte sur le clair firmament, et la fillette preste qui passe le buisson pied leste en chantant sa chanson. Et qu'il vente ou qu'il neige, moi-même chaque soir, que fais-je venant ici m'asseoir? Je viens voir à la brune, sur le clocher jauni, la lune comme un point sur un nid, comme un point sur un nid.
Mmh. Merci Jean-Christophe Keck pour ce Fantasio d'Offenbach, merveilleusement chanté comme toujours d'ailleurs par Camille Morane avec Lily Bienvenue. Visiblement on n'est pas les seuls à aimer parce que je vois Hervé Villard qui a les yeux qui brillent aussi en écoutant ça.
J'en suis très content. Alors c'était en 1957 et hasard des circonstances, c'est la même année que la radio de Hambourg rassemblera une excellente troupe de chanteurs, Helmut Krebs, Valérie Bach, Karl Hoppe, Willy Hoffmann et j'en passe pour enregistrer une intégrale en allemand, mais malheureusement revue et corrigée à la mode de l'époque par Otto Mag et Ludwig Berger. Alors l'occasion pour nous d'écouter la scène d'entrée du deuxième acte qui a été miraculeusement conservée dans son jus d'origine et avec la participation de la splendide Gisela Litz dans le rôle travesti du page Flamel.
Qui croyait que j'aimais pas Fantasio, vous êtes en train de me faire chavirer, mon cher Jean-Christophe.
Quelle idée de ne pas aimer Fantasio.
Fantasio ici d'Offenbach, donc dans la version de la radio de Hambourg en 1957.
Voilà, alors à ma connaissance, pas de traces de Fantasio à la radio ou dans les bacs à disques pendant au moins 20 ans après cet enregistrement. Jusqu'à un beau jour de 1980 où le label anglais Opéra Rara nous a fait découvrir avec émerveillement le final de l'acte 2, mais dans un cadre tout à fait surprenant et loufoque, puisqu'il a été intégré dans un pasticcio écrit par Don White d'après différentes pièces d'Offenbach intitulées Christopher Columbus. Alors, un enregistrement que je vous conseille d'ailleurs, parce qu'on le trouve encore dans les bacs, mais ces 10 dernières années, le disque a rendu quelques discrets hommages tout de même à Fantasio, avec des extraits toujours accueillis avec enthousiasme par la critique et les mélomanes, que ce soit chez Deutsche Grammophon avec la mezzo Anne-Sophie von Otter, ou chez Universal avec la soprano Guylaine Raffanel, comme pour préparer un peu le terrain à l'intégrale qui se mijotait chez Opéra Rara. Voici donc en avant-première française un extrait de cette intégrale tant attendue. Je ne peux qu'inciter les auditeurs à courir acheter ce joli coffret dès qu'il paraîtra. Les critiques anglaises sont déjà dithyrambiques et les heureux soucis souscripteurs qui ont déjà reçu leur exemplaire ne tarissent pas d'éloges. Il y a tant de belles pages et des plus variées dans Fantasio qu'il m'a été difficile de faire un choix. Et j'ai finalement opté pour un des plus brillants airs de colorature que je connaisse, la valse d'Elsbeth, admirablement interprétée par Brenda Ray, une très jeune soprano dont je ne doute pas qu'on entendra encore souvent parler.
Dans son cœur qui donc
Fantasio, la valse d'Elsbeth par Brenda Ray, donc très bel enregistrement là encore sur la direction de Marc Elder et qu'on va pouvoir bientôt découvrir dans son intégralité, Jean-Christophe.
Tout à fait, enfin voilà de quoi en tout cas crier haut et fort qu'il est temps de rendre Offenbach ce qui lui appartient, c'est-à-dire son orchestration originale qui fait partie intégrante de son génie, n'oublions pas.
Ah bon, il savait orchestrer ?
Pardon, là vous me cherchez. Bon, quel bonheur d'entendre cette musique d'Offenbach telle qu'elle a été conçue par son créateur et non pas dans un de ses arrangements faméliques qu'on nous sert trop souvent aujourd'hui. Vous connaissez mon avis sur la question. Enfin, Offenbach est un génie, un des plus grands musiciens du 19e siècle, je ne cesserai de le dire et le redire. Que justice lui soit rendue en tout cas, et je crois que la parution de ce CD va largement y contribuer, du moins je l'espère.
En attendant, espérons-le aussi, une reprise scénique, je l'avais vue en Bretagne il y a quelques
années. Bon, ça n'a pas laissé un grand souvenir.
Alors, attend la grande version scénique.
Le Festival de Montpellier donnera une version concert cet été, l'été prochain.
Très bonne nouvelle. Merci Jean-Christophe et à très bientôt.
Merci Benoît, au revoir.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Pauline Boisaubert, avec aujourd'hui à la technique Alex Billard, entouré d'Antoine Giraud, Raphaël Bézikian, réalisation Christine Amado. Et j'ai le grand plaisir la semaine prochaine d'accueillir Robert Piquet et Chantal Derieux qui viendront vous parler de toute leur merveilleuse expérience de l'opérette à Paris dans les années 50. Bon week-end à tous!